VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Bagassi Koura et Henri Francisca avec vous ce matin.
Au sommaire en ce lundi 2 février.
Cannes 2015, on connaît l'affiche complète des demi-finales. Ce sera la RDC contre la Côte d'Ivoire et le Ghana affrontera la Guinée équatoriale.
Au Nigeria, Boko Haram une nouvelle fois repoussé dans sa tentative de s'emparer de Maïdougouri dans le nord-est.
Au Niger, le parquet de Niamey décide de faire appel de la décision d'incompétence du tribunal correctionnel de Niamey dans l'affaire dite des trafics de bébés.
Nous sommes en fait comme dans une sorte d'arène de lutte où les lutteurs ne veulent pas venir de l'arène. À chaque sifflet de l'arbitre, il dit « Attendez, je dois arranger ma ceinture, attendez, je dois retrousser mes manches pour ne pas venir de l'arène. »
Dans moins de 10 minutes, le journal de la CAN et n'oubliez pas la Minute Éco en fin d'édition. Mais d'abord, le journal.
Au Nigeria, Boko Haram n'en démord pas. Le groupe islamiste a encore tenté hier de prendre la ville de Maïdougouri dans le nord-est, mais il a une nouvelle fois été repoussé par l'armée, Idriss Fall.
Selon le général Chris Olukolade, porte-parole de l'armée nigériane, l'attaque menée hier par les terroristes à Maïdougouri a été rapidement repoussée. Il a ajouté que les terroristes ont subi de lourdes pertes, de puissantes explosions et des échanges de tirs ont été entendus pendant plusieurs heures dans la capitale de l'État du Borno. Boko Haram avait déjà tenté le 25 janvier de prendre cette ville qui est aussi le berceau de la secte islamiste. Par ailleurs, au moins 7 personnes ont été tuées hier dans un attentat suicide à Port Sikoum, faisant craindre des violences lors des élections prévues le 14 février. À la présidentielle, le président sortant Goodluck Jonathan, un chrétien du Sud, sera opposé à Muhammadu Buhari, un musulman du Nord. Les législatives auront lieu le même jour et les élections des gouverneurs des 36 États de la Fédération le 28 février.
Par ailleurs, l'AFP rapporte que des membres de Boko Haram retranchés dans la ville nigériane de Gamboru, à la frontière avec le Cameroun, ont été pilonnés dimanche après-midi par des hélicoptères de combat de l'armée tchadienne. Il s'agit de 2 hélicoptères de type Mi-24 qui ont bombardé pendant 2 heures, affirme l'AFP, les positions des islamistes qui tiennent cette ville.
2 gardes du corps du Premier ministre du Lesotho ont été blessés dimanche lors d'une fusillade qui a fait aussi un mort. Citant un conseiller du chef du gouvernement, l'AFP affirme que les 2 gardes du corps ont été pris pour cible par des soldats dans l'après-midi devant le palais royal de Maseru, la capitale, peu après un meeting du Premier ministre Tom Tabané. Cette attaque intervient à 4 semaines d'élections législatives censées restaurer la paix après une tentative de coup d'État en août dernier.
L'Égypte a libéré et expulsé hier Peter Gresti, le journaliste australien d'Al Jazeera. Il était emprisonné depuis plus d'un an pour un prétendu soutien aux frères musulmans Anne Alberson.
Dès sa sortie de prison au Caire, Peter Gresti a quitté la capitale égyptienne discrètement à bord d'un vol régulier vers Chypre avant de continuer sa route vers l'Australie. Le journaliste avait été arrêté en décembre 2013 avec 2 confrères, l'égypto-canadien Mohamed Farmi et l'égyptien Baher Mohamed. Ils travaillaient tous pour la chaîne Al Jazeera et avaient été condamnés à 7 et à 10 ans de prison pour soutien aux frères musulmans. Le Canada a dit espérer la libération rapide de son ressortissant. Al Jazeera, basé au Qatar, s'est réjoui de la remise en liberté de Peter Gresti et a réclamé la libération des 2 autres journalistes. Le Comité pour la protection des journalistes a réclamé la libération de tous les reporters emprisonnés en Égypte, soulignant que 12 journalistes ont été arrêtés depuis décembre dernier.
Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, selon l'AFP, 13 Congolais et un civil indien des Nations Unies ont été tués. Des hommes armés ont tenté de rançonner les clients d'un bar à Arou et ont ouvert le feu avant de disparaître. Selon la police congolaise, les victimes fêtaient la victoire des Léopards de la RDC qui se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations en éliminant samedi le Congo-Brazzaville.
Un nouvel accord au Soudan du Sud. Le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar s'engagent à nouveau à mettre fin au conflit qui a dévasté le pays à l'issue d'un accord de cessez-le-feu signé ce lundi lors de pourparlers à Addis Abeba en Éthiopie. Aucune des parties n'a révélé les détails de cet accord. Les 2 parties doivent se retrouver à nouveau à partir du 20 février pour aplanir les détails. Les 2 parties ont déjà signé au moins 3 accords de paix qui ont tous fait long feu.
Au Liberia, la réouverture des écoles qui était prévue ce lundi a été reportée au 16 février. D'après le ministère de l'Éducation nationale, c'est pour permettre aux parents et aux élèves de mieux se préparer. Les classes sont fermées depuis août 2014 à cause de l'Ebola qui a fait près de 9000 morts, essentiellement au Liberia, en Guinée et en Sierra Leone. La progression de la maladie connaît maintenant un net ralentissement. Les écoles sont ouvertes en Guinée depuis le 19 janvier et en Sierra Leone, la rentrée scolaire est prévue en mars.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'annonce de l'exécution par le groupe État islamique d'un second otage japonais a mis hier le Japon en émoi, tandis que la Jordanie s'est dite déterminée à tout faire pour sauver un pilote jordanien aux mains des djihadistes en Alberson.
Le Japon a réaffirmé hier qu'il ne céderait pas au terrorisme au lendemain de la diffusion d'une vidéo attribuée à l'État islamique et montrant la décapitation du journaliste japonais Kenji Goto. Le groupe djihadiste avait déjà annoncé il y a une semaine l'exécution d'un premier otage japonais, Haruna Yukawa, capturé en Syrie. « C'est un acte de terrorisme ignoble », a déclaré le premier ministre Shinzo Abe. Outre les deux Japonais, le groupe djihadiste a revendiqué depuis la mi-août l'exécution de 5 otages occidentaux. Le roi Abdullah de Jordanie a condamné ces actes et assuré que son pays fait tout pour retrouver vivant son pilote, Maaz al-Kassasbeh. Le groupe État islamique avait menacé de l'exécuter si Amman ne libérait pas la djihadiste irakienne Sajida al-Rishawi, condamnée à mort pour des attentats meurtriers en 2005. Amman dit attendre une preuve que son pilote est toujours en vie.
En Syrie, au moins 7 pèlerins chiites ont été tués et 20 autres blessés hier par l'explosion d'une bombe dans l'autobus qui les conduisait à des lieux saints à Damas. Une attaque revendiquée par le front al-Nusra, filiale d'Al-Qaïda, qui accuse les passagers d'être des combattants du groupe militant chiite libanais Hezbollah.
Crise en Ukraine, au moins 13 soldats ukrainiens tués et 20 autres blessés depuis l'effondrement des négociations de paix entre Kiev et les rebelles pro-russes avant-hier. 10 civils ont également péri lors des affrontements hier dans les zones séparatistes de Donetsk et Lugansk. Pas d'informations jusqu'à présent sur les pertes des rebelles.
Crise de la dette en Grèce, Londres et Rome sont les prochaines étapes du ministre grec des Finances après son escalier à Paris. Yanis Varoufakis y est entretenu avec son homologue français Michel Sapin et le ministre de l'économie Emmanuel Macron au sujet des efforts d'Athènes pour convaincre ses créditeurs d'annuler une partie de la dette grecque de 360 milliards de dollars.
La campagne anti-austérité de Syriza, le parti au pouvoir en Grèce, fait des émules en Espagne. Des dizaines de milliers de protestateurs ont manifesté samedi à Madrid en faveur du parti espagnol Podemos, qui fait campagne sur ce même thème. Beaucoup de manifestants portent des drapeaux grecs et des pancartes préconisant le changement.
Sport aux États-Unis, victoire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre sur les Seahawks de Seattle hier soir en finale du Super Bowl, le championnat national de football professionnel américain. La plus grande fête sportive de l'année dans le pays. À preuve, 112 millions de téléspectateurs avaient suivi le match à la télévision l'année dernière. Dimanche, les Patriots l'ont emporté de justesse à Phoenix, dans l'Arizona, après avoir été dominés par leur adversaire pendant la plus grande partie de la rencontre. C'est leur huitième participation à la grande finale, un record, et leur quatrième titre de champion en 14 ans.
Eh bien, on reste dans le domaine du sport. Hein. Tout de suite, le journal de la CAN avec Nicolas Pinot.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique. Il ne reste plus que 4 équipes pour prétendre au trophée final dimanche prochain. Deux duels, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, voilà le menu de ces demi-finales de la CAN 2015. Première opposition mercredi prochain entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont enfin répondu aux attentes les concernant. Victoire nette et convaincante face à l'Algérie 3-1. Un doublé de Boni et un but du revenant Gervinho dans les arrêts de jeu a permis aux éléphants de rejoindre le dernier carré One, two, three, l'Algérie rentre au pays. Christian Gourcuff, le sélectionneur, a estimé que la meilleure équipe n'avait pas gagné hier soir. Le favori ivoirien retrouvera donc la RDC. Les Congolais ont battu 4-2 leurs voisins de Brazzaville lors d'un match fantastique en suspense. Thierry Kambundi nous en dit plus depuis Bata.
16e et dernier pays à se qualifier pour cette 30e Coupe d'Afrique des Nations de football, la RDC se retrouve aujourd'hui dans le dernier carré au terme d'un quart de finale renversant face aux voisins du Congo Brazzaville. Mené 2-0 à 25 minutes de la fin du match, les Léopards ont réussi à inverser la tendance et se sont imposés 4-2. Dieu merci Mbokani, double buteur de la RDC, revient sur le scénario de ce match.
C'était un match incroyable parce que le match c'était 0-2 en faveur du Congo Brazza. On a marqué 2-2, 3-2, 4-2. Ça c'est la miracle pour moi. Vous savez très bien, ils sont fatigués en la deuxième mi-temps et on a poussé jusqu'à la fin et on a marqué tous les 4-2.
Le sélectionneur Jean-Florent Ibengué, satisfait de la qualification, déplore tout de même qu'à chaque fois son équipe soit obligée de réagir après avoir encaissé un.
On attend toujours d'encaisser pour réagir et c'est ce que je reproche un petit peu à mes joueurs. Et on perd beaucoup de force par rapport à ça.
Pour Constant Omari Selemani, président de la Fédération Congolaise de Football, l'objectif est atteint à ce stade. Ce qui va suivre, c'est du bonus.
Je suis content pour le football congolais. Ils ont rempli pratiquement la mission que nous leur avions assignée. Le reste, comme je vous avais dit, la dernière fois, c'est du bonus.
Bata, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique. Non, ne me teste pas, non, j'ai la balle, ne me teste pas.
Autre choc dans le dernier carré, Ghana-Guinée équatoriale. L'Unzalang s'est qualifié samedi au terme d'un match polémique et dans les prolongations face à la Tunisie. Un pénalty imaginaire sifflé dans les arrêts de jeu a permis à Balboa de mettre les deux équipes à égalité. Puis d'un somptueux coup franc, Balboa permet à la Guinée équatoriale de l'emporter 2-1 et de se qualifier pour la première fois de son histoire en demi-finale de la CAN. Georges Likens, le sélectionneur de la Tunisie, ne décolère toujours pas.
C'est une grande frustration parce que toute la partie, on était la meilleure équipe et à ce moment-là, un pénalty pareil. Quand tu vas voir les images, c'est quoi qui va arrêter? Toute la Tunisie est fière sur nous. Perdre de cette manière, non. Si ils étaient meilleurs, s'ils ont bien joué, ok, on accepte. C'est pas les Guinées que je dis, ben. Mais ça, tu peux pas faire. Je m'excuse, je suis 30 ans comme entraîneur, 15 ans comme footballeur, c'est 45 ans. C'est normal que les joueurs, ils ont tout donné. Et puis, de cette manière-là, non, c'est difficile. On se sent pas bien. Et je crois, en Tunisie, on se sent pas bien non plus. On a tout fait. On était dans des circonstances mais difficiles. On a eu beaucoup de problèmes. Et on a tout accepté. Mais de cette manière, non.
Georges Likens, le sélectionneur de la Tunisie. La Guinée équatoriale ne partira pas favorite pour la demi-finale puisqu'elle sera opposée au Ghana. Facile, les Black Stars se sont imposés 3-0 face à la Guinée. Atsu a même inscrit un doublé et le Sili National rentre à Conakry avec les honneurs. Michel Dussuyer, le sélectionneur de la Guinée, a déclaré « On est tombé sur plus fort que nous. Il faut mesurer le chemin parcouru en Guinée. On a tendance à se voir plus beau que l'on ne l'est. Il faut relativiser. On n'a pas pu hisser notre niveau de jeu. » Le Ghana, lui, répond toujours présent dans les grands rendez-vous. Comme l'explique notre consultant Jules Valentin Gouet pour son coup de sifflet.
Bonjour. La seconde partie de la CAN commence pour les Black Stars du Ghana, qui marquent un territoire parfaitement connu en renvoyant à leurs chères études de sympathiques Guinéens. Le Ghana est monté progressivement en puissance, se payant au passage le scalp d'une équipe algérienne trop prudente, puis ramenant à la raison des artistes sud-africains encore tendres. En effet, leurs performances, comme celle des Léopards du Congo et des Éléphants de Côte d'Ivoire, confirment l'importance de l'expérience et de la prise de risque à ce stade de la compétition. Alors l'année 2015 sera-t-elle la bonne? On se rappelle que la dernière CAN gagnée par les quadruples champions d'Afrique date de 33 ans. Le jeu collectif et l'insolence technique retrouvée à la fin des matchs de poule, puis confirmée contre la Guinée, remettent en confiance un groupe équilibré, bien encadré par des joueurs d'expérience, qui rêvent de faire comme les champions inattendus de 1982, c'est-à-dire de ramener la coupe au pays, afin qu'au sein de la famille Ayou, les fils André et Jordan puissent enfin tuer le père Abedi, le Benjamin des héros de 1982. Mais la route reste parsemée d'embûches, la Côte d'Ivoire victorieuse de la montagne algérienne étant aussi sur la voie de la rédemption. À demain.
Voilà, c'est tout pour ce journal de la CAN. Prochain point sur la compétition, ce soir dans Le Monde Aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur notre site internet voafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique sur la Voix de l'Amérique. Bagassi Courant, votre compagnie, place maintenant au dossier du jour en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la Coupe d'Afrique seulement qui fait l'actualité. Il y a aussi cette phobie généralisée depuis plusieurs semaines liée aux enlèvements d'enfants. Il y a quelques jours, les autorités ont même dénombré près de 21 enfants enlevés et tués par des inconnus. D'où cette peur des parents au bord de la lagune Ébrier. Le point avec notre correspondant sur place, Germain Dré.
Il ne se passe pas un jour sans qu'on ne signale dans les quartiers d'Abidjan et même dans les villes de l'intérieur l'enlèvement d'un enfant. À Abidjan, les messages sur les téléphones portables affluent quand la peur envahit les populations. Puis, les écoles de la capitale économique sont restées fermées pendant 48 heures. Une situation que beaucoup considèrent comme une manipulation politique. Crépin Georges.
C'est une affaire politique pour faire la psychose dans la population. Ils ont inventé cette histoire pour dire que puisque les élections de cette année, donc certaines personnalités veulent prendre les enfants pour faire des sacrifices humains. Ce n'est pas réel. Ça ne se fait jamais en Côte d'Ivoire.
Si c'est Youssouf, c'est un phénomène qui est réel. Mais quand les informations parviennent aux gens, comme ce qu'on a vu avant-hier sur Abidjan, tout porte à croire que c'est des choses bien organisées. Parce que au même moment où on me dit que les enfants sont en train d'être enlevés, je reviens à la CICOJ, c'est la même chose qui se passe. Est-ce qu'on peut enlever les enfants en même temps, au même moment, dans toutes les écoles? Et ça youpougon que le problème vraiment est récurrent. Moi, je pense que cette histoire, elle est vraie, mais elle est surenchérie par les gens qui en veulent une récupération politique.
C'est Smaro, Enza. Nous recevons des SMS des dirigeants et des amis que nous connaissons de nous demander de garder nos enfants à la maison jusqu'à ce que le gouvernement arrange ce problème d'enlèvement d'enfants. Mais ça va s'arrêter quand et comment?
Pour les populations, cette psychose généralisée créée a un impact négatif considérable.
On nous oblige à retenir nos enfants à la maison pour boycotter l'école et avoir une année blanche.
Les enfants, ça fait deux jours, ils ne vont pas à l'école et certains ne veulent même plus retourner à l'école. Ils ont la phobie de voir quelqu'un auprès d'eux, les plus petits. Et même les grandes personnes sont accompagnées par leurs grands-pères ou leurs grands-mères pour aller se promener. Parce qu'ils sont certains qu'à tout moment, on peut les enlever.
Ça a un impact vraiment négatif sur l'évolution de la Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment regrettable.
Je suis Mohamed, je suis un vitrier. Je prends les enfants à l'école, les ramener ce soir. La mère n'est pas là, tout c'est moi. Mais vraiment, moi, je trouve que réellement, tout ce qui se passe actuellement, Yopougon ici, ils sont diabolisés à faire ça autrement encore.
Récemment, la police a comptabilisé 25 dossiers d'enlèvement d'enfants suivis de meurtres sous tout le territoire national. Pour ces cas et les autres qui suivront, le chef de l'État compte les traiter avec rigueur. Alassane Ouattara.
Nous continuons de traiter ce problème avec la plus grande fermeté. Ce phénomène est inacceptable, indigne de la Côte d'Ivoire et indigne du climat apaisé que nous voulons pour nos concitoyens dans notre beau pays.
Contre les enlèvements d'enfants, le gouvernement a annoncé jeudi le déploiement de 1500 agents de forces de sécurité pour enrayer ce phénomène qui gagne du terrain dans le pays. Germain Dri, Abidjan, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Au Niger, le parquet de Niamey décide de faire appel à la décision d'incompétence rendue vendredi dernier par le juge du tribunal correctionnel de Niamey dans l'affaire dite de trafic de bébés. Une affaire qui implique de hautes personnalités, dont l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa.
C'est dans l'après-midi du jour où la décision d'incompétence du juge pour connaître de cette affaire a été prise que le bureau du procureur de la République qui poursuit la trentaine de personnes pour supposition d'enfants a annoncé son intention de relever appel au niveau de la cour d'appel de Niamey. Samna Chebou, adjoint au procureur général, ironise même la tournure que prend cette affaire.
Nous sommes en fait comme dans une sorte d'arène de lutte où les lutteurs ne veulent pas venir de l'arène. À chaque sifflet de l'arbitre, il dit « Attendez, je dois arranger ma ceinture. Attendez, je dois retrousser mes manches pour ne pas venir de l'arène. » Nous sommes exactement dans cette situation. Et sincèrement, ce que je pense, c'est que cette question d'incompétence nous arrange mieux parce que là, c'est à nous de faire les diligences pour faire appel. Et le parquet a systématiquement relevé appel. Nous avons déjà l'acte d'appel ici. Et je puis vous dire que le dossier va remonter au niveau de la cour d'appel. Et rassurez-vous, ce ne serait pas sur une charrette.
Le conseil d'avocat des personnes présumées impliquées dans cette affaire reste pourtant convaincu que même la cour d'appel ne pourra trouver à redire. Maître Ali Kadri, un des avocats.
Le tribunal nous a donné raison en ce que l'infraction pour laquelle nos clients ont été poursuivis ne peut pas être jugée à l'état actuel de la chose. Il faut que le tribunal civil, le juge civil, se prononce sur la filiation des enfants en vertu des dispositions de l'article 327. Et ça, nous l'avons toujours dit, nous l'avons clamé et nous étions convaincus des arguments juridiques que nous avons exposés par devant le juge, en ce que la poursuite a été précipitée, en ce que les règles de procédure n'ont pas été respectées, en ce qu'on s'est empressé à emprisonner des innocents. Et nous sommes convaincus d'une chose, c'est que quel qu'en soit les cas de figure, quelle qu'en soit la situation, aujourd'hui, la question de filiation des enfants doit être réglée préalablement avant la saisine d'un juge correctionnel. Pour nous, cette question est définitivement close jusqu'à ce que, si le procureur fait appel, à ce moment-là, on va répondre par devant la cour d'appel et on reprendra les mêmes arguments juridiques.
Le rapport d'appel sera déposé en principe ce lundi matin devant les trois juges de la cour d'appel. Abdul Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
En octobre dernier, les Burkinabés avaient réussi une prouesse, chasser le régime Blaise Compaoré, alors au pouvoir depuis 27 ans. Mais il ressort que la note de cette insurrection populaire est très salée. C'est la conclusion d'une étude de l'Institut Free Afrique basé à Ouagadougou. Notre correspondant Zoumana Wonogo nous en dit plus.
C'est devant un auditoire à majorité jeune que le conférencier, tout aussi jeune professeur d'économie, après un survol de la situation économique mondiale, a planté les décors de ce qu'il appelle économie de l'insurrection. On écoute le conférencier Seydou Edraogo, directeur exécutif de Free Afrique.
En gros, ce qu'on a voulu appeler l'économie de l'insurrection, c'est d'abord l'économie en 2014 qui a été très marquée par l'agenda de l'article 37. Donc une économie qui a ralenti parce que les hommes d'affaires n'avaient pas confiance. Il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup de risques, mais aussi parce que l'État lui-même ne travaillait plus sur les finances publiques vraiment. Il regardait son agenda, il était très préoccupé par cet agenda politicien. Et c'est deuxièmement donc ce temps fort de l'insurrection où il y a eu des dégâts importants au plan économique avec un formidable message politique qui est celui du renouveau, mais qui a occasionné également des dégâts qui ont affecté des secteurs économiques importants qui peinent aujourd'hui encore à se sortir de ces dégâts. Les dégâts directs qui ont affecté les entreprises, les administrations publiques, les infrastructures publiques, les biens privés, on les a grossièrement estimés autour de 120 milliards de francs CFA. C'est des dégâts qui ne tiennent pas compte des effets du second tour, qui est par exemple que pendant plusieurs années probablement, il y a des emplois qui sont perdus.
Et sur les perspectives d'avenir, le conférencier ne cache pas ses inquiétudes. Il se dit même pessimiste.
Je regarde que nos entreprises sont dans une situation très difficile, en lien avec le fait que l'État a accumulé des arriérés de paiement très importants de l'ordre de 200 milliards, mais que paradoxalement, les revendications sociales n'ont jamais été aussi importantes. Je remarque également que les autorités ont rencontré tout le monde sauf les opérateurs économiques privés. Et que par conséquent, il y a comme si l'agenda de la transition ne met pas l'économie dans la priorité. On est tout à fait d'accord que la priorité a de sortir de cette situation avec des élections propres. Mais il faut bien se rendre compte que pour que les gens aillent aux élections, il faut qu'il y ait un minimum de contenu socio-économique dans le processus.
Cet état d'esprit pessimiste est tout aussi partagé, même s'il y met un bémol par Larlé Naba, chef coutumier et homme politique.
Je suis d'avis qu'on soit en droit d'être pessimiste au regard de certaines réalités, mais on peut aussi être optimiste car nul ne pouvait prévoir qu'une insurrection populaire pouvait faire partir un homme aussi puissant, M. Blaise Compaoré. Je pars de cette hypothèse que aujourd'hui c'est préoccupant. Il y a beaucoup de dossiers qui sont ouverts, qui font que les gens sont perplexes étant donné qu'il n'y a pas de suite rapide.
Le tableau peint pousse à la crainte du lendemain pour les FASO. Et voici ce que nous a confié Mahamadi Sawadogo, le coordonnateur du mouvement des intellectuels pour la liberté.
Les savants ont toujours tendance à être un peu pessimistes dans leur présentation des choses parce qu'ils ne sont pas dans l'attitude de l'homme d'action. Ceci dit, je crois que c'est un pessimisme qui est aussi un choix parce qu'ils croient que c'est par là qu'on peut pousser les gens à réagir et à rester vigilants. Je retiens que c'est une conférence qui a été très instructive.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Cap maintenant sur le Togo. Là-bas, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a entamé depuis le 20 janvier la révision des listes électorales. Cette opération a commencé dans des préfectures du Sud, regroupées au sein de ce qu'on appelle la zone 1. Ces opérations ont pris fin le 27 janvier. Plus de détails avec notre correspondante Kayla Osson.
Après 8 jours d'opération dans la zone 1 qui comprend Lomé, la révision des listes électorales a pris fin le 27 janvier dernier. Pendant les opérations, des irrégularités ont été constatées par endroits. Dans certains bureaux, les opérations ont été retardées pour cause de maintenance. Témoignage de cet opérateur de saisie.
La population vient quand même pour s'enrôler, mais on attend les techniciens pour qu'on vienne réparer la machine, pour qu'on travaille. Mais jusqu'à maintenant, on les a pas encore vus. On les a appelés au moins 3 fois. Mais ils sont en route. Nous, on n'a rien à faire ici. Seulement s'ils passent, on va travailler. S'ils passent pas, on est là.
À la fin de la révision des listes électorales dans la zone 1, l'Alliance nationale pour le changement ANC estime que l'opération ne s'est pas déroulée dans les meilleures conditions. Adama Debrousse du bureau national de l'ANC.
Le fait de mal organiser la révision, c'est aussi une stratégie pour priver les citoyens de cette zone de leur droit de vote. Il n'y a pas eu de sensibilisation pour permettre aux populations de la zone 1 de se mobiliser pour aller s'inscrire. Du moins pour les citoyens qui viennent d'avoir 18 ans et pour ceux qui n'étaient pas inscrits précédemment sur la liste électorale. Sans carte d'électeur, vous ne pouvez pas aller voter même si telle est votre volonté.
Du côté du ministère de l'administration territoriale, la révision des listes électorales dans la zone 1 est satisfaisante d'une manière générale. Gilbert Bawara, chef de ce département ministériel.
Globalement, les opérations se sont bien déroulées. Il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements, de difficultés, d'insuffisances qui ont été relevés, qu'il s'agisse des kits, des imprimantes, des problèmes d'encre, de consommables qui étaient insuffisants. Tout cela a été recensé et la CENI a pris l'engagement d'étudier sérieusement certains de ces dysfonctionnements et insuffisances et de trouver des solutions pour que les choses se passent dans des conditions meilleures dans la deuxième et dans la troisième zone.
La CENI veut gagner entre autres paris celui de la transparence. Pour le parti des Togolais, cette transparence ne peut avoir que le fichier électoral comme soubassement. Alberto Olimpio, président du parti des Togolais et candidat à la présidentielle.
Nous voulons bien que cette transparence commence par un droit de regard sur le fichier électoral. Nous devons aller voir ce qui se passe à l'intérieur de ce fichier. Il est primordial que les élections se passent dans la transparence. Mais pour cela, il faut que le fichier électoral soit propre.
Les opérations de révision dans la zone 2 débutent ce lundi 2 février et sont prévues prendre fin le 9 prochain. Quant aux populations de la troisième zone, elles accueilleront les équipes pour la révision du fichier électoral du 16 au 23 février. Kay Lawson, Lomé, pour La Voix de l'Amérique.
La Minute Éco, l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Avec nous ce matin, Jean-Roger Bion. Bonjour Jean-Roger.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
La Société financière internationale annonce qu'elle va investir 30 millions de dollars en Guinée.
Cet argent va servir à renforcer l'appui aux petites et moyennes entreprises. Tout au long de l'année 2015, 600 PME sont concernées et vont percevoir leur enveloppe à travers des mécanismes de partage de risques. Ces investissements qui cibleront particulièrement les femmes et le secteur agroalimentaire viennent s'ajouter à l'aide de 17,5 millions de dollars annoncée par la FSI en novembre 2014 dans le cadre de sa facilité de trésorerie d'urgence contre l'Ebola.
En France, Grenoble accueille un forum dont le but est de remettre l'économie à sa place.
Content pas content, le nom du forum qui se tient jusqu'au 7 février en dit long. Le public est appelé à réinterroger les critères de richesse et de bien-être.
Donc content, C-O-N-T-E-N-T, pas content, C-O-M-P-T-A-N-T. On peut être content sans compter et que par rapport à cette économie qui nous gouverne et qui prend toute la place, ben, il y a tout le temps des chiffres de partout, il faut évaluer, ça rend pas forcément heureux.
Tiffany Billot de l'ONG CCDF, Terre solidaire, cheville ouvrière du forum, content pas content.
Et puis première réunion du Clinton Global Initiative du 5 au 7 mai. À Marrakech.
Il s'agit de la réunion inaugurale de la Clinton Global Initiative, CGI, dédiée au développement de l'Afrique du Moyen-Orient, créée en 2007 à l'initiative de l'ancien président américain Bill Clinton. Clinton Global Initiative réunit des leaders mondiaux pour mener des réflexions, formuler et mettre en œuvre des solutions innovantes aux problèmes de l'heure.
Merci Jean-Roger. C'était la Minute Éco. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la production, c'était Anne Alberson et John Ellison était là à la console technique. Un grand merci à toute la rédaction de La Voix de l'Amérique. C'était Bagassi Koura au micro. Je vous souhaite de passer une excellente journée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.